ça m'a beaucoup intéressé, le titre, etc. Et je me suis dit, je vais venir dès le matin parce que je suis sûre que ça va me faire m'enverger et réfléchir et que ça va mettre un petit peu en question ce que moi je peux faire dans le cadre de mes projets de recherche. Et c'est vrai que si j'ai bien compris, sur la journée, je porte un peu la casquette de l'ingénieur. Et donc, c'est vrai que dans mes projets de recherche, je vais développer, on va dire, un regard un peu ingénieur, même si je suis amenée, vu qu'on est sur des projets multipartenariaux, à m'interroger aussi sur le rôle que peuvent avoir chacun de ces partenaires dans un projet. Donc, le titre que j'ai proposé pour aujourd'hui, c'était donc « Mieux planifier, concevoir, gérer quand la transition énergétique et climatique modifie les conditions d'exercice des acteurs de l'aménagement ». Et c'est une présentation qui est venue un peu piocher dans différentes expériences que j'ai pu avoir, rencontrées, différentes réflexions que j'ai eues au travers de différents projets de recherche. Et pour introduire un petit peu mon propos, je partais un petit peu d'une réflexion qu'avait Géraldine Molina dans un de ses articles, où elle montrait finalement que l'injonction à la lutte contre le changement climatique, ça touchait d'une manière assez transversale les acteurs de l'aménagement des territoires, et qu'il y avait aujourd'hui de plus en plus la nécessité de venir territorialiser finalement cet enjeu de la transition énergétique et climatique. Et donc, on y reviendra un petit peu plus loin sur les types d'outils qu'on puisse développer progressivement. Mais que ça rencontrait aussi, finalement, ça entrait en résonance avec des besoins un peu citoyens qu'on pouvait retrouver auprès de la société civile. Et donc aujourd'hui, on le voit de plus en plus, que ce soit avec les différentes marches pour le climat, les manifestes étudiants, etc. On sent que c'est plus uniquement, on va dire, l'État qui va venir faire une petite descente d'échelle sur les différents outils qu'elle va proposer, mais qu'il y a vraiment quelque chose dont se saisissent les citoyens et un certain nombre d'acteurs. Après, moi, je vais plutôt avoir un prisme collectivité territoriale ou acteur de l'aménagement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, elles ont tout intérêt à se préoccuper finalement dès maintenant de l'évolution du climat et de l'adaptation au changement climatique qui sera nécessaire. Puisque si on regarde un petit peu les temps de l'aménagement ou les temps de la construction, on est sur des investissements sur le long terme. Enfin voilà, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est fait normalement pour durer 30, 40, 50, voire plus si on le souhaite, mais... Donc forcément, on a des taux de renouvellement du cadre bâti qui sont très faibles en France. Et donc on a une inertie du milieu urbain et des temps longs en matière d'aménagement. Enfin, si on analyse par exemple ne serait-ce que Paris, le projet Paris Rive Gauche, entre le moment où ça a commencé à être dessiné et puis ben, là on est encore dans les fins d'aménagement, enfin, il s'est écoulé, je pense, une trentaine d'années. Donc d'ailleurs avec des injonctions qui ont pu être un petit peu différentes entre le début et la fin de ce projet-là. Donc en fait, les collectivités locales et en particulier les villes peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et les politiques énergétiques, dans la mesure où elles maîtrisent finalement la répartition et l'organisation de leur activité sur leur territoire par les choix de planification urbaine et d'aménagement et leur capacité d'investissement de long terme qu'elles peuvent préconiser et mettre en place. Alors, cette question de la transition... cette question de la transition énergétique et climatique, donc là, c'est un peu une chronologie qui montre que, on va dire, de questionnement à l'échelle internationale, il y a eu une pratique un peu plus locale qui s'est mise en place progressivement. Et en plus, une implication progressive également des villes, notamment à partir des années 2000, avec la Convention des maires, ces Carbon Cities, les accords, Global Cities Covenant on Climate, qui rassemble un certain nombre de villes. Et on sent que la thématique de l'adaptation au changement climatique et de la résilience également sont des façons aussi qui permettent de mobiliser de plus en plus les collectivités, puisqu'on on attrape finalement la question de la transition énergétique et climatique aussi par le biais des impacts locaux qui vont être générés par ce changement climatique. Donc, autant on va dire à la fin des années 90, c'était des problématiques qui étaient plutôt traitées à l'échelle de l'État, autant aujourd'hui, c'est impossible de ne pas intégrer dans la réflexion les collectivités territoriales. Et elles sont énormément sur le devant de la scène. Après, là, c'est une première illustration d'un projet de recherche qui vient de se finir, qui s'appelait Ascens, où on a regardé comment cette question de la transition énergétique et climatique était intégrée dans les documents d'urbanisme. Puisque finalement, si on allait interroger un certain nombre d'acteurs des collectivités territoriales, si on leur posait la question de c'est quel instrument quel est le meilleur instrument pour intégrer les questions d'énergie climat, ils nous disaient c'est le PLU. Et d'autres parlaient aussi du SCOT. Donc on s'est dit finalement comment ces outils-là peuvent vraiment intégrer les questions d'énergie climat. Et on a commencé avant d'aller interroger des acteurs à Brest, en Grand-Ouésie ou à Paris sur la façon dont ils avaient pu intégrer justement ces enjeux énergie-climat dans leur document d'urbanisme. On a regardé ce que disait la littérature sur ces freins à une intégration des enjeux énergie-climat au sein des documents d'urbanisme. Alors on est parti vraiment de la littérature scientifique et vraiment avec le prisme frein, parce qu'on voulait éviter toute la littérature des yaka faucons qui va pas forcément révéler qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas aussi loin qu'on le devrait. Donc il n'y avait pas forcément énormément de littérature, parfois c'était une littérature un peu générique, mais ce qui a permis quand même d'organiser un petit peu les différents freins à une mise en œuvre beaucoup plus, on va dire, coercitive et importante des enjeux énergie-climat. Donc il y a tout ce qui est frein contextuel et d'environnement, donc on en parlait, le côté planning long terme, il y a tout ce qui est frein technique et de moyens, on n'a pas forcément la connaissance, il y a des liens, des relations qui ne sont pas claires entre densité, consommation d'énergie, etc. Il y a des freins politiques et institutionnels aussi, et il y a également des freins cognitifs et culturels. Donc, finalement, si on commence à lister qu'est-ce qui peut faire qu'on n'a pas envie de pousser plus loin la dynamique énergie-climat des documents d'urbanisme, bon, ben, il y en a un certain nombre là-dessus. Et par contre, on a aussi analysé quand même la littérature, on va dire, plus guide, document d'aide pour intégrer ces questions d'énergie-climat dans la planification spatiale. On s'est aperçu quand même que c'est quelque chose qui est assez pléthorique. Il y en a énormément. Alors, je ne vais pas aller dans le détail du contenu de cette analyse-là. Moi, ce que je trouvais assez intéressant et ce qui nous interroge aussi, c'est pour ça que je pose la question des outils ce matin, c'est qu'en fait, sans y répondre totalement, quand on a commencé à discuter entre les différents enseignants-chercheurs du projet, c'est que finalement, on s'est posé la question de savoir ces outils, finalement, est-ce qu'ils servent vraiment à être des outils méthodologiques qui seront utilisés après et diffusés après, ce qui veut dire qu'il faut mettre quand même en place un certain nombre de moyens pour continuer à faire perdurer cet outil méthodologique. Ou est-ce que finalement, en soi, le temps d'élaboration de cet outil-là n'est pas aussi un moyen de monter en compétence? Et donc, on va dire, la finalité, à la fin, certes, c'est d'avoir rédigé presque un rapport, un outil méthodologique, mais en fait, l'enjeu, c'était plutôt la montée en compétence de tous les acteurs qui ont participé à la rédaction de ce guide, et qu'ensuite, c'est pour ça qu'on a finalement un certain nombre de guides qui vivotent, parce qu'en fait, il a permis aux différents acteurs impliqués de se mettre à niveau. Il a permis sans doute d'initier un certain nombre de démarches, mais il n'a pas vocation peut-être à devenir vraiment un outil méthodologique utilisé et généralisé. Donc on n'a pas forcément répondu à la question et arbitré lequel rentrait dans quelle case, mais ça nous a interrogé quand même sur la volonté de développement de ces outils. Après, Si on descend un petit peu, je reprends. Donc, il y avait donc de nombreux outils et méthodes qui ont été développés ou qui sont en fait en cours de développement pour accompagner les villes. Hein. Je pense qu'on s'est arrêté à intenter, mais on aurait pu en trouver d'autres. Et donc, il y a plusieurs études qui ont permis de mettre en évidence les atouts et les freins d'une meilleure intégration des questions énergétiques et climatiques dans les documents d'urbanisme, plus généralement dans l'urbanisme. Et il se pose aujourd'hui, de façon quand même assez accrue, la déclinaison de ces enjeux, de ces objectifs énergétiques et climatiques à l'échelle des projets d'aménagement urbain. Donc, je vais redescendre encore un petit peu d'échelle. Et c'est vrai que l'opérationnalisation des politiques énergétiques, c'est un enjeu clé aujourd'hui, et que les urbanismes ont besoin de lier les questions de changement climatique à un programme, un enjeu plus large. Et pour cela, il est nécessaire de créer des liens entre l'expertise scientifique et les besoins des décideurs locaux. Donc on sent aussi là qu'il y a un jeu d'acteurs qui doit se mettre en place. Et donc si on descend à cette question de l'urbanisme opérationnel, donc quelles actions à l'échelle de l'aménagement pour améliorer la performance énergétique, on s'aperçoit que derrière cette question, il y en a en fait plusieurs. Donc qui prend la décision, finalement? Les décisions prises par les acteurs de l'échelle de l'aménagement sont-elles liées à la performance énergétique? Est-ce que finalement, sur les questions d'énergie, c'est vraiment à cette échelle-là que se prennent les décisions? Comment les choix en termes de plan masse, tracé, volumétrie ont-ils une incidence sur les besoins énergétiques? Et celui qui prend la décision, prend-il la question de l'énergie en compte? Donc en fait, on s'aperçoit que derrière cette question entre guillemets un peu simple, il se cache un certain nombre de sous-questions à laquelle on a cherché à répondre, ou en partie selon différents projets. Et donc la première, comment évaluer les besoins énergétiques d'un aménagement urbain? Mais on s'aperçoit que c'est à la fois un problème physique, mais aussi un problème temporel, comme on va le voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a un développement aujourd'hui de modèles complexes pour les petites échelles afin d'examiner les effets combinés des îlots de chaleur urbains, de la pollution atmosphérique, de l'ingénierie, de l'architecture, de l'aménagement urbain. Et ça a été possible que très récemment grâce au développement finalement informatique et des outils informatiques. Par contre, même si on va voir plus loin, il existe pléthore d'outils, l'évaluation des besoins énergétiques d'un aménagement urbain en phase de conception, ça reste une problématique importante. C'est la question de la phase de conception qui est très délicate. Donc, en effet, donc, si on connaît les phénomènes physiques qui lient globalement la forme d'un aménagement urbain et les besoins énergétiques, la modélisation de ces phénomènes reste complexe. Et donc, la performance énergétique d'un bâtiment, ça dépend de 4 facteurs: la géométrie urbaine, la conception du bâtiment, l'efficacité des systèmes énergétiques et le comportement des occupants. Et donc, on a un certain nombre d'informations sur le fait que la conception des bâtiments, soit ça peut faire varier d'un facteur de 2,5 à la consommation d'énergie, l'efficacité des systèmes, un facteur de 1 à 2, et le comportement des occupants, un facteur également de 2. Par contre, l'influence de la géométrie urbaine, c'est quelque chose pour lequel personne, en tout cas, n'a tenté encore aujourd'hui de faire une estimation, alors que ça peut avoir un impact très important. Et c'est vrai qu'on est capable de comprendre ce qui se passe d'un point de vue énergétique et climatique en fonction des différentes formes, par exemple à Amsterdam, il y a un peu d'accès au soleil, les bâtiments sont plus bas, à Paris ou à Barcelone. On est capable de décrire les phénomènes physiques qui ont lieu. Par contre, passer cette connaissance en termes d'aide à la conception d'un projet d'aménagement, là aujourd'hui, on est encore assez peu outillé là-dessus. Et donc, si on... À gauche, vous avez par exemple une synthèse de différents types de modèles qui traitent de la relation entre ville, climat et énergie. Donc en fait, il y en a plein. Donc il y a des modèles issus de la thermique du bâtiment qui d'ailleurs vont chercher progressivement à intégrer un petit peu plus l'échelle du quartier, qui nécessitent des informations détaillées sur la géométrie, sur la forme, l'orientation du bâtiment, les matériaux. Il y a les modèles de climatologie urbaine qui, eux, cherchent à intégrer l'influence des bâtiments sur le microclimat. Et donc, ces modèles d'échelle plus importante que bâti, donc qui sont plutôt à l'échelle du quartier, voire de la ville, ils vont généralement s'appuyer sur des représentations un peu génériques du cadre bâti, rue Canyon, alignement régulier, et alignement régulier des bâtiments équivalents. Donc, la finesse de la description du bâtiment n'est pas très importante. Et puis, il y a également donc, tout ce qui est modèles économiques et sociaux, où là, ça s'appuie sur des relations entre données économiques, sociales, comportementales, et besoins et consommation d'énergie. Et donc, bon, il y a aussi tout ce qui est modèle de transport qui n'est pas inclus ici. Et puis, en plus, il y a des modèles qui tentent de coupler différentes échelles de ces différents modèles-là. Mais par contre, ces modèles, en tout cas ceux qui existent aujourd'hui sur le marché, ils ne répondent pas à la problématique de la phase de conception. Où là, vous avez un peu, c'est en anglais, la courbe de McLean, qui explicite la nécessité de concentrer les efforts du projet sur les phases amont de conception pour optimiser à la fois la qualité fonctionnelle du projet et les coûts. En gros, plus on agit, enfin, les décisions qui sont prises en amont de projet sont celles qui vont avoir le plus d'impact. Et en plus, plus on avance dans le temps, plus ça peut devenir coûteux de prendre un certain nombre de décisions de modification. Donc, c'est vrai qu'ensuite, c'est un tableau qui récapitule les niveaux de connaissance aux différentes étapes d'un projet d'aménagement urbain. Et c'est vrai qu'en phase de conception, on a finalement assez peu d'informations. Et aujourd'hui, les outils qui sont développés demandent des informations assez fines sur les descriptions de bâtiments, ce qui oblige les personnes qui veulent utiliser ce type d'outils à faire des hypothèses assez réductrices. Et donc, finalement, c'est pas forcément utile. Donc, l'absence d'outils existants performants pour accompagner un aménageur dans ses décisions en lui permettant de quantifier les impacts énergétiques de ses choix, ou tout du moins le développement très récent d'outils interroge finalement quand même sur cette place de l'énergie, de la question énergétique dans le processus d'aménagement urbain. Et c'est vrai qu'en plus, les quelques outils qui existent sont assez compliqués, donc les résultats qu'ils vont donner ne sont pas forcément très faciles à communiquer à ceux qui vont prendre la décision, parce qu'en fait, ils impliquent tellement des hypothèses qu'il faut mettre en évidence, que l'analyse du résultat n'en est que plus difficile. Et donc il y a quand même de nombreux chercheurs qui s'intéressent à ces problématiques, parce que ces phases amont où on sent que c'est celles qui ont le plus d'impact potentiellement sur les questions d'énergie, sont aussi, et c'est là toute la relation aussi entre architectes et ingénieurs, c'est aussi des phases très créatives, généralement pour un urbaniste, ces phases amont. Alors, je suis pas urbaniste de fond, ni architecte de formation, mais c'est des phases aussi qui sont assez intuitives. Il y a des phases de doute exploratoire, c'est un terme qui est utilisé par Lawson. Donc en fait, quand on commence à poser la question de créer un outil finalement presque d'ingénieur au service de ces phases de conception qui sont plutôt maîtrisées normalement par les architectes et urbanistes, on arrive tout de suite un peu à un choc et une confrontation de deux cultures assez différentes. Et aujourd'hui, il y a quelques projets de recherche qui commencent justement à vouloir intégrer et à prendre en compte le fait que ce sont des phases de réflexion très créatives et qu'il ne faut pas faire des outils à la mode ingénieur, mais qu'il faut pouvoir réussir à intégrer cette phase de créativité et à permettre cette phase de créativité. Il y a deux outils qui se développent comme ça. Dans ceux que je connaissais, je sais que du côté de Franck Boutet, ils essayent, à la suite d'un projet de recherche qui s'appelait Mesh, de développer un outil justement qui arrive à générer des formes et à proposer une évaluation environnementale de ces formes urbaines. Et pareil, côté Efficacity, ils essayent également de développer un outil qui prennent beaucoup mieux en compte, on va dire, que les outils développés jusqu'à maintenant, ces phases de réflexion très jeunes. Mais donc, je posais quand même la question, un outil, oui, mais pour qui? Et ça s'appuyait sur un projet de recherche qui avait été soutenu par une doctorante. Je n'arrive même plus à savoir quand est-ce qu'elle a soutenu. Ça va trop vite, je pense que c'était en 2015, quelque chose comme ça, sur comment les acteurs des projets urbains intègrent-ils les enjeux énergétiques dans leurs pratiques. Et donc, c'était Charlotte Tardieu, et elle avait analysé Clichy-Batignolles, Paris Nord-Est et Paris Rive-Gauche, en regardant à différentes échelles, donc l'échelle du projet urbain, les opérations secteur d'aménagement, les objets urbains, comment la question de l'énergie était intégrée. Donc on avait trois projets qui étaient quand même assez différents, même d'un point de vue temporel. Donc Paris Rive Gauche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc un projet commencé depuis longtemps, qui s'est confronté progressivement à l'apparition d'exigences énergétiques. Le projet Clichy-Batignolles, qui dès le début a été un peu un projet d'expérimentation de la ville de Paris en matière de performance énergétique et climatique, et dans lequel on retrouve d'ailleurs un encart à part dans le climat de la ville de Paris. Enfin, voilà, il est vraiment porté de cette façon-là. Et Paris Nord-Est, donc également un projet à long terme qui s'insère dans un contexte énergétique et climatique de plus en plus changeant et de plus en plus exigeant. Et donc, sur Paris Nord-Est, ce qu'on s'est aperçu, donc, c'était que c'était des préoccupations dans l'air du temps. La ZAC, le Bernard, il y avait un engagement de l'aménageur, il y avait un encart spécifique dans le plan climat, et une volonté d'innover au sein de l'opération McDonald's. À l'échelle de Clichy-Batignolles, donc, il y avait eu la candidature de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques de 2012. Il y avait une forte volonté politique que ce soit un projet innovant en termes de transition énergétique et un engagement de l'AMO, l'assistant maîtrise d'ouvrage énergie, et également donc, un encart spécifique dans le plan climat. Et Masséna Brunzo, donc là c'était sur Paris Rive Gauche. La question de l'énergie, elle a émergé notamment par le biais de Masséna Brunzo, où là il y avait des bâtiments de grande hauteur donc, qui sont prévus. Et donc la réflexion sur la hauteur des bâtiments a entraîné une réflexion sur la performance énergétique. Donc, voilà, est-ce que grande hauteur, c'est compatible avec la performance énergétique des bâtiments ? Et également une réflexion autour du confort thermique des espaces extérieurs, du fait notamment de l'ombre portée des tours. Et il y a eu une analyse également des documents qui étaient produits dans le cadre de ces projets d'aménagement. Et en fait, c'est là qu'on s'est aperçu que la procédure de qualité énergétique était lancée dans un cadre juridique et opérationnel uniquement... Le gros du suivi de la performance énergétique, c'était à l'échelle des objets urbains, des bâtiments que ça se faisait, beaucoup moins qu'aux échelles supérieures. Donc, on voit qu'à l'échelle des opérations du secteur d'aménagement, on avait un certain nombre de chartes, parfois quelques études énergétiques ou des cahiers de prescription environnementale. Et la majorité, même des documents supérieurs, avait des recommandations pour l'échelle du bâtiment, c'est-à-dire on n'avait pas de recommandations ou très peu sur des échelles on va dire supérieures. Donc on sent que la question de la performance énergétique elle est surtout investie à l'échelle du bâtiment et assez peu à d'autres échelles, alors que je vérifie si j'en parle un peu plus loin, il ne me semble pas. Alors qu'en fait, si on prend le cas de la ZAC Claude Bernard, il y a eu un certain nombre de réflexions sur l'approvisionnement énergétique au niveau de Paris Nord-Est, et se poser la question donc, de savoir est-ce qu'on met en place un réseau de chaleur ou pas, et de la création d'un puits géothermique. Et en fait, en parallèle, il y avait des études pour faire de la mutualisation entre deux bâtiments qui étaient avec des types de consommation un peu différentes, donc ce qui aurait pu permettre de mutualiser quand là, le besoin de froid, l'autre avait besoin de chaud, donc d'échanger de la chaleur. Et en fait, une solution qui était très pertinente à l'échelle de ces deux bâtiments aurait pu remettre en cause totalement l'équilibre économique de la mise en place d'un réseau de chaleur qui était bénéfique pour le coup d'un point de vue carbone. Pour l'ensemble de l'échelle du projet. Donc là, ça montrait que sur cette question de l'énergie, on ne pouvait pas uniquement s'arrêter à une réflexion bâtiment ou groupe de bâtiments, mais qu'il y avait nécessité d'avoir une vue d'ensemble sur la question. Et donc, la question de l'approvisionnement énergétique, elle avait été regardée également sur les trois projets urbains. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait eu des approches assez différentes en fonction des projets, et sans doute aussi du fait l'histoire de ces projets-là. C'est qu'il y avait sur Paris Rive Gauche une approche que Charlotte avait appelée business as usual. Donc c'était le promoteur qui avait le choix de l'énergie. Donc il y avait des études de faisabilité des approvisionnements en énergie du bâtiment qui avaient été faites. Et le promoteur était libre de choisir les énergies alimentant son bâtiment. Et en fait, l'aménageur, lui, son objectif, c'était de faire en sorte de pouvoir proposer un portefeuille de type d'énergie le plus important possible au promoteur. Dans la deuxième approche, qui était celle de Paris Nord-Est, là, l'opérateur de réseau énergétique a été assez proactif, c'est-à-dire qu'il a fait un peu en amont des études de faisabilité des approvisionnements en énergie de l'opération d'aménagement, notamment parce que enfin, c'était la CPCU, la Compagnie Parisienne du Chauffage Urbain, qui avait pour objectif de verdir son réseau pour avoir une TVA inférieure, diminuée. Et donc en fait, dans le cas présent, dans le cas de Paris Nord-Est, les promoteurs ont été incités à se raccorder au réseau. Après, si on faisait un peu l'analyse de discours, eux avaient eu le sentiment que c'était obligatoire, alors que, en fait, d'un point de vue contractuel, ça n'était pas tant que ça. Mais par contre, c'est comme si on leur avait fait croire que c'était obligatoire. Et troisième approche, c'est l'aménageur, ça c'est sur Clichy-Batignolles, qui a porté cette question de l'approvisionnement énergétique sur le projet. Donc il y a également eu une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie du projet urbain. Et le promoteur, là, cette fois-ci, était contraint de suivre les choix faits par l'aménageur. Donc c'était dans les cahiers de cause techniques, je ne sais plus le terme exactement, pour se raccorder au réseau. Donc on sent finalement que d'un projet à l'autre, on peut avoir des dynamiques en plus d'acteurs qui sont assez différentes. Bon, là, qui peuvent aussi s'expliquer par l'histoire et la genèse des projets. Et donc, dans sa recherche, elle concluait sur deux éléments. C'était le fait qu'elle s'était aperçue que l'énergie n'était finalement pas une dimension stratégique du projet urbain, alors qu'on voit que ça peut avoir une influence assez forte sur les consommations énergétiques. Et je donnais des exemples tout à l'heure de dessins de Pérou des JO. Et j'étais à une réunion il y a pas très longtemps sur les questions énergétiques et climatiques. Et à un moment donné, la maîtrise d'ouvrage, un appel du pied, ouais, mais faudrait qu'on puisse quand même toucher un petit peu à la forme urbaine dessinée, parce que mine de rien, ça a un impact sur les consommations d'énergie. Donc on sent qu'il y a cette question-là qui apparaît de plus en plus. Il n'y a pas de gouvernance spécifique mise en place donc en dehors de la performance énergétique des bâtiments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cette performance-là qu'on va venir mesurer. Et une absence de pratique stabilisée en réponse à l'enjeu de production de NR, finalement, d'un projet à l'autre, qu'on va avoir des approches, des méthodes assez différentes. Le plan climat, en tout cas pour Paris, ça a été un moteur de la transition énergétique sans en être le garant. C'est pas un outil, c'est pas comme le plan local d'urbanisme, c'est pas opposable. Par contre, c'est vrai que ça va impulser une sorte de dynamique. Et après, on a réinterrogé les différents matériaux de cette thèse-là, et puis aussi avec la thèse de Samuel Chiche, ça nous avait un peu apporté, ça nous, ça nous titillait sur plusieurs éléments, notamment sur la relation entre l'opérateur de réseau et l'urbanisme. Et donc dans ces trois projets-là, ce qu'on s'est aperçu, donc, c'était que l'opérateur de réseau, finalement, il était resté dans son rôle de concessionnaire de réseau, donc un acteur qui était incontournable, mais finalement assez peu actif et influent en matière d'urbanisme. Il n'est jamais allé, on va dire, sur ces plates-bandes-là. Par contre, si on regarde les différentes lois de transition énergétique, POP, etc., des dernières années et décennies, c'est des lois qui ont permis d'imprégner l'urbanisme et l'aménagement d'enjeux énergétiques. On a modifié les codes de l'urbanisme, de l'environnement, et on a outillé quand même les collectivités territoriales là-dessus. À l'inverse, le secteur de l'énergie a été assez peu irrigué par les approches urbaines, alors que la transition énergétique donc, reconfigure année après année le domaine de l'aménagement de l'urbanisme. Donc on voit une coloration dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Et quid de l'adaptation au changement climatique? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de poser les questions en parallèle, mais c'est vrai que la question de la transition énergétique, de l'atténuation du changement climatique, ça a été beaucoup plus porté que la question d'adaptation au changement climatique. Et c'est vrai que ce dont on s'est aperçu dans le cadre du projet Adaptatio, c'est que l'adaptation ne figurait pas vraiment au cahier des charges des projets en cours ou projetés à court terme. Et ça s'expliquait notamment par l'incertitude autour de l'intensité des futurs changements climatiques. Ça ne facilite finalement pas la prise en compte de cet enjeu-là. Mais par contre, que s'il y avait une forme de retrait par rapport à l'adaptation, il y avait une envie d'en savoir plus sur ce qui était nécessaire de faire. Et c'est vrai que c'est l'adaptation au changement climatique, c'est pareil dans la recherche qu'on a faite sur Assens pour regarder comment les documents d'urbanisme intégraient ces questions d'énergie et de climat. La question de l'énergie est beaucoup plus traitée que la question de l'adaptation au changement climatique. Et à l'échelle de l'aménagement, la grosse difficulté, souvent quand je donne des cours, soit à des étudiants, soit en formation continue, je renvoie souvent un petit peu la balle parce qu'en fait les solutions ne vont pas forcément pouvoir venir des chercheurs, on ne va pas pouvoir restreindre l'incertitude concernant l'évolution du climat. C'est quelque chose qui va devoir être intégré au nouveau métier. Et donc on sait construire pour le climat parisien, on sait construire pour le climat bordelais, on sait construire pour le climat de Séville, mais il va falloir apprendre à construire pour les trois potentiellement en même temps. Parce que finalement, selon les modèles qu'on utilise, on peut se retrouver dans 50 ans avec le climat de Bordeaux ou le climat de Séville. Et donc là, c'est un peu... je le vois avec des discussions avec des gens issus de l'immobilier, ils disent « Ouais, mais on sait faire sur le climat... Oui, vous savez faire pour un climat, mais par contre, pour trois climats, c'est... Il va falloir créer des nouvelles approches. » Et donc, là, c'était une petite citation que j'aime bien parce que ça permet de montrer la complexité de l'exercice et puis le fait qu'il y a nécessité de faire travailler les disciplines entre elles. Donc, la modélisation, d'autant plus justifiée que l'on s'attaque à un objet complexe, comme c'est le cas de la ville, est un terrain privilégié de la coopération interdisciplinaire. Et donc... ça a été un petit peu le cas de l'ensemble des travaux de recherche que j'ai pu mener. Généralement, il y a souvent des gens qui sont issus de cultures un peu différentes. Et puis, ça a été le cas, en fait, du début de ma recherche, où moi, j'ai traité des questions d'îlots de chaleur urbains, où on sent que c'était une question qui était beaucoup plus posée par les climatologues, qui avaient développé un certain nombre d'outils. Et c'est une question qui progressivement a été intégrée par les collectivités, par les bureaux d'études techniques et les bureaux de conseil. Et donc aujourd'hui, il y a nécessité de faire dialoguer aussi l'ensemble de ces milieux pour faciliter le dialogue. Et dernier point que je dis. Je pense que je vais m'arrêter là. Et on verra dans les différents échanges. Donc c'est un peu foisonnant, j'ai essayé de rassembler différentes recherches.
Merci.
Merci beaucoup. On prend quelques questions techniques, s'il y en a. J'en ai peut-être une
oui,
sur...
C'est quoi une question technique?
Question technique au sens de... pas une compréhension précise sans rentrer voilà, dans le fond du débat qu'on réserve pour la discussion croisée.
Donc ça comprend que l'idée que la modélisation est un préalable n'est pas une question technique.
ça demande de plus amples débats.
Voilà, ça demande de plus amples débats.
Faut que tu te prépares.
Je me pose la question, donc je sais même pas si j'arrive à une réponse là-dessus.
Et justement, sur ce dernier point que tu évoques, tu parles de coopération dans des projets de recherche. Est-ce que tu peux juste nous préciser un peu le contexte? Est-ce que c'est des équipes de SHS qui coopèrent avec des équipes plus d'ingénierie? Quel type de projet de recherche, juste pour se faire
Alors, il y a eu plein. En fait, ça s'appuie sur plusieurs types de projets. Donc, il y a eu des projets qui étaient plus, on va dire, sciences de l'ingénieur. Pour le coup, ça ne mélangeait pas forcément d'un point de vue disciplinaire, mais par contre, ça mélangeait des institutions. On va dire, il y avait GIS, il y avait. Un laboratoire, il y avait plusieurs laboratoires, il y avait une collectivité, donc on était sur des acteurs différents, mais plutôt avec des approches sciences de l'ingénieur. Après, on a pu avoir des disciplines, on va dire, un peu différentes, avec des économistes, des urbanistes et de la science de l'ingénieur. Je réfléchis un temps sur projet Ascens, on avait un mélange entre moi plutôt sciences de l'ingénieur, une personne issue du droit et d'autres qui étaient plutôt sciences humaines et sociales. Donc, et en plus des organismes qui pouvaient être un peu différents. Donc en fait, d'un projet à l'autre, on va avoir des configurations qui peuvent être assez différentes. Donc c'est pas tous les projets ne vont pas être forcément sur de l'interdisciplinarité, mais par contre ça peut être des organismes donc un peu différents. Et il y en a d'autres qui vont peut-être avoir un petit peu plus de différentes casquettes, on va dire, de disciplines.
Et juste une autre question technique sur la question du... À un moment, tu parles du jeu des échelles sur les réflexions bâtiments-quartiers. Tu parles des approvisionnements énergétiques dans les trois projets urbains parisiens.
Oui.
En disant qu'il n'y a qu'un cas où on est dans l'obligation réglementaire.
Alors, c'est pas l'obligation réglementaire, c'est à l'échelle du projet de la ZAC du Batignol, dans les. Je sais plus le terme du document. En fait, ça impose aux promoteurs de se raccorder au réseau.
D'accord. Parce que les études réglementaires à l'échelle des ZAC, en termes d'approvisionnement énergétique, c'est obligatoire.
Oui. Mais par contre, après, les conséquences que. Alors, Si.
D'accord. C'est ensuite, une fois qu'on a fait les études, le choix revient à l'acteur en question. Et tu montrais que c'était différent sur comment ils se saisissent de manière
éducative
et énergétique.